franceinter.fr.
L'heure de la revue de presse d'Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et en lisant la presse ce matin, vous vous êtes posé quelques questions sur l'image des champions.
Image d'un héros français tout d'abord, Thibaut Pinot, 25 ans, qui a vécu hier son apothéose sur l'avant-dernière étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez. Nos quotidiens poussent tous un grand cocorico ce matin après cette victoire tricolore qu'on n'espérait plus. C'est le fait du jour du Parisien, c'est la une de l'équipe et du journal du dimanche. On y apprend d'ailleurs que non content d'avoir remporté cette étape, son manager Marc Madiot compte bien faire de Thibaut Pinot un futur vainqueur de grande boucle. Nous avons un plan quinquennal pour y arriver, nous promet-il. Mais le petit détail intriguant, c'est donc, on vous le disait, l'image choisie par la presse pour représenter le héros du Tour du jour. La photo est quasi identique dans tous les journaux. Thibaut Pinot, le visage figé dans un éternel cri de victoire, oreillette et casque sur la tête, lunettes réfléchissantes, protégeant et masquant ses yeux. Sans se consulter, les journaux ont tous choisi la photo d'un vainqueur presque sans visage. Comme si des années après les Fignon, Poulidor, Hinault ou Jalabert, les héros français du Tour étaient quasiment redevenus des anonymes. Autre coureur, autre image, lui pourrait chanter « Je ne suis pas un héros » ou plutôt « Je ne suis pas là pour être un héros ». Christopher Froome, vainqueur annoncé d'un deuxième Tour de France, répond à l'équipe ce matin après plusieurs jours de polémiques lancées par les performances quasi extraterrestres du coureur. Des accusations à peine voilées qu'il balaye aujourd'hui d'un revers de la main. « Je ne suis pas là pour gagner un concours de popularité, je fais ça parce que j'adore le cyclisme, pousser mon corps à ses limites, tous les sacrifices, c'est pour ça que je me lève le matin. » Il regrette aussi une certaine irresponsabilité des médias français. Évidemment, ils n'ont pas dit que Chris Froome se dope, mais les commentaires, les mots utilisés, toutes ces insinuations, c'est assez lâche. Ultime aveu de faiblesse très humaine de celui qu'on présente comme un surhomme, ses doutes tout au long de l'avant-dernière étape hier. « Je suis mort 1000 fois dans l'Alpe d'Huez », explique Froome, qui jure que ce maillot jaune, il a eu très très peur de le perdre. Et puis si vous êtes moins fan du Tour 2015 que nostalgique des Tours du XXe siècle, lemonde.fr fait aujourd'hui le portrait touchant d'une de ses légendes, le cycliste ouzbek Jamoliddin Abdoujaparov, terreur du sprint et vainqueur en 95 sur les Champs-Élysées, et lui aussi un peu victime de son image, celle d'un enfant terrible du vélo qui a même fini par donner son nom à un groupe de punk britannique et qui coach aujourd'hui des pigeons de course. Dans sa volière, on l'a vu caresser un volatile avec un sourire d'enfant, raconte Clément Guillou. On en sort convaincu que celui qui s'était taillé en quelques courses une réputation de voyou du sprint n'a été que la victime d'un grand malentendu et que ses origines et son mutisme n'y étaient peut-être pas pour rien.
Et après la réforme des régions, Olivier, la bataille des capitales.
Le JDD s'intéresse ce matin à ce grand bazar qu'est la nouvelle carte territoriale, un big bang qui sème la zizanie selon le journal, qui met en concurrence des villes un peu partout en France pour la place tant désirée de capitale de région. Un sondage IFOP tente de déterminer les préférences des habitants de plusieurs nouvelles régions fusionnées. Alors c'est parfois sans surprise, comme dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où l'on préfère largement Lille à Amiens, pourtant soutenue par une pétition signée par Élodie Gossuin et Jean-Pierre Pernaut. Mais le score est beaucoup plus serré quand il s'agit de départager Caen et Rouen, comme capitale de la Normandie, ou Toulouse et Montpellier en tête du combo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Autre inquiétude, un peu moins symbolique, celle de l'argent dépensé dans tout ça. Jean-Pierre Raffarin l'affirme, il sera plus important que tout ce que la réforme peut apporter, car il s'agit de ne fâcher personne. Les villes déchues se sont mises immédiatement en quête de contrepartie, explique le journal du dimanche. Une attitude qui agace au plus haut point Place Beauvau. La réforme n'est pas faite pour organiser une espèce de grand interville, lance sèchement Bernard Cazeneuve. Transition toute trouvée pour vous parler d'un autre jeu médiatique qui se balade dans les villes de France et qu'on connaît très bien ici à France Inter.
Oui.
Le jeu des 1000 euros. Marianne lui consacre 6 pages titrées « La France ding ding contre la France bling bling ». Pour Marie Huret, qui a suivi l'équipe de l'émission, le jeu des 1000 euros triomphe à travers la France des villages parce qu'il représente une poésie rurale en total décalage avec son époque. Et à la lecture de l'article, ce n'est pas une critique, bien au contraire. On peut y lire Nicolas Toufflet expliquer qu'à Paris, on parle de France profonde, mais en fait, c'est la France tout court. Et déclarer aussi son admiration pour les maires des communes traversées. Ils passent leur temps à gérer des emmerdements, des histoires de coqs qui chantent trop fort. Il m'est arrivé de déjeuner avec des élus qui n'avaient pas dormi de la nuit à cause d'un drame, d'un accident de la route, d'une inondation. Ils font preuve d'un dévouement total. Marianne qui se demande aussi combien de temps cette émission pourra résister au dictat d'une époque assoiffée de jeunisme et de culture people. En le lisant, on tremble d'imaginer un jour une Nabila assaillie de questions de culture générale au son du fameux métallophone.
Et dans Marianne toujours, on ressort la tenue en lycra, la cape et les pouvoirs surhumains.
On part aujourd'hui à la rencontre des super-héros super méconnus. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant, eux aussi ont droit à leur version sur grand écran. En cause, selon Alexandre Coste, une véritable pénurie de têtes d'affiche pour le géant du secteur Marvel. Les héros les plus connus du grand public ont déjà été adaptés ou sont en cours d'adaptation. Voici venu le règne des seconds couteaux. Après Ant-Man, l'homme fourmi il y a quelques jours, on souhaitera donc bientôt la bienvenue à Howard le canard, tombé dans l'oubli depuis le bide monumental d'une première adaptation par George Lucas en 86, mais aussi Doctor Strange, incarné par Benedict Sherlock Cumberbatch, Deadpool, super-héros schizophrène et délirant et seul personnage de BD à être conscient qu'il en est un, et enfin la Panthère Noire en 2018, symbole pour Marianne de l'arrivée de nouvelles recrues issues de la diversité. Non, le géant vert Hulk ne compte pas. Et puis un peu d'amour dans ce monde de brutes capitalistes, c'est ce que nous promet Politis ce mois-ci qui consacre un large dossier à l'amour au temps du libéralisme. Pour le mensuel, les sentiments, le sexe et le couple sont aussi le résultat du bouillon de culture politique, économique et sociale où nous évoluons. Comment se désire-t-on au temps du libéralisme roi ? L'autre est-il devenu une marchandise ? À moins, au contraire, que le don de soi qu'est l'amour ne soit une résistance à la société de consommation. Autant de questions que Politis pose, sans prendre le risque de les trancher, en évoquant tour à tour la fin du mariage bourgeois, les nouvelles formes de couple, le polyamour, amour ou le rôle des réseaux sociaux et des sites de rencontres dans nos amourettes. On en retiendra notamment cette phrase de François de Singly, sociologue. Les techniques libérales tendent à faire durer l'amour 3 ans, non pour des logiques biologiques ou de routine, mais parce qu'on se dit, est-ce que je ne dois pas changer de conjoint vu que j'en ai un de 5e génération et que je pourrais en prendre un de 6e génération? Une analyse que je vous laisse liker ou non à votre guise.
Mon Dieu, c'était la revue de presse d'Olivier Bénis. Merci et à la semaine prochaine, Olivier.